Bonjour, nous sommes sur Radio B avec Guillaume et Jacques, et moi-même, Kochi. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir à nos côtés le chef cuisinier David Lachavanne, accompagné de son jeune apprenti Alexis Fraisse, propriétaire du restaurant Racine situé à Saint-Denis-les-Bourgs. Nous évoquerons les gaspillages alimentaires qui est très présent dans la restauration. Guillaume abordera la pollution de la marque Coca-Cola et les solutions pour y lutter contre cela. Et enfin, Jacques nous parlera de la transition des véhicules thermiques et électriques.
Alors, une question pour vous deux. On va faire un reportage aussi sur la pollution, le gaspillage, etc. Et je voulais savoir quels étaient vos moyens, vous, en tant que restaurateur, pour lutter contre le gaspillage, justement.
Alors, nous, le gaspillage, si vous voulez, c'est quelque chose dont on a horreur, parce que le gaspillage, déjà, ça coûte cher, premièrement. Et puis, on limite évidemment la pollution au maximum. Le gaspillage, déjà, dans un tout premier temps, c'est déjà de travailler sur des produits de saison et des produits locaux. Alors, quand je dis locaux, c'est d'un point de vue national. On ne va pas s'arrêter à Bourg-en-Bresse, intramuros, quoi. Voilà. Mais par contre, on ne va pas aller chercher des... on a de l'agneau en France, on ne va pas aller en chercher en Nouvelle-Zélande. On a des poulets en France, on ne va pas aller en chercher en Allemagne, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est vrai que nous, on est très regardant là-dessus. Ce n'est pas être chauvin ou quoi que ce soit, c'est simplement du respect des produits, du respect des producteurs également, qui fournissent quand même un travail... Nous, on se doit d'avoir une chaîne derrière nous. Nous, certes, les restaurateurs, on fonctionne grâce aux clients, mais nos producteurs, eux, fonctionnent grâce à nous aussi. Voilà. Donc, ça commence par ça. Après, c'est de calculer, nous, ce que on a la chance d'avoir en fait un restaurant où on se limite en nombre de places. C'est souvent le cas des gastronomiques, parce que ça demande énormément de préparation. Donc, on se limite à environ 30-40 couverts. Et on a la chance à Bourg-en-Bresse d'avoir une forte demande dans cette partie-là gastronomique. Donc, si vous voulez, en fait, généralement, on les fait, nos 30-40 couverts. Et donc, ça nous permet en fait, de calculer au plus juste les produits. Ce qui fait que quand on a 30 couverts par service, c'est très simple. Je calcule le nombre de services que je dois faire avec mes légumes, ma viande, mon poisson. Je fournis ça au producteur, au plus juste, des fois à quelques centaines de grammes près, et il me livre pile ce qu'il me faut. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a un gaspillage de produits bruts quasiment zéro. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ? On travaille au-delà, on va dire, du gaspillage. Nous, tout ce qui est épluchure, alors on va essayer de se servir un maximum des produits quand on épluche des carottes, etc. Dans les épluchures de carottes, ça a du goût. Donc on va faire des bouillons de légumes. Quand on reçoit nos langoustines, on casse les langoustines, on récupère la queue. Les carcasses de langoustines, on va en faire une sauce. Puis après, on va en faire de la poudre, qui va nous permettre de saler les plats avec du sel de langoustine. Enfin voilà, on essaye de tirer au profit au maximum le produit. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les épluchures qu'on ne se sert pas, en fait, je crois qu'il n'y a quasiment aucune épluchure qui part à la poubelle, parce qu'on a des animaux dans le parc qui tondent la pelouse, pour ainsi dire, on n'a pas de tondeuse, et les animaux mangent les épluchures. Voilà. Donc on a vraiment tout un circuit comme ça. On a un petit potager également avec des herbes, comme je voyais derrière un petit peu, c'est un peu comme là, au centre pénitentiaire. On a des herbes aromatiques, on a quelques fleurs également comestibles, des choses comme ça. On ne peut pas aller au-delà, parce qu'un restaurant, on produit... On a quand même une certaine quantité de production, donc il faudrait vraiment un jardinier à plein temps pour pouvoir nous fournir tous les légumes dont on a besoin. Ça, faut pas non plus se leurrer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Également, nos tables, les tables du restaurant sont faites avec du bois de la propriété. J'y tenais qu'il y ait vraiment une identité dans le restaurant. Donc, c'est-à-dire que ce sont des frênes et de l'aulne. Ce sont des arbres qui étaient soit morts, soit dangereux. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tomber sur une habitation, etc. On n'abat jamais de façon comme ça inopinée. Donc, ce sont des arbres qui ont été tranchés professionnellement et on a fait des tables avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme, et puis, évidemment, après, tout le tri normal. Le plastique part dans les bennes à plastique, le verre dans le... Voilà. On se doit de montrer, vu les quantités, encore une fois, de plastique et de verre que l'on passe, je me vois mal y mettre à la poubelle. Quoi. C'est pas possible. Voilà.
Alors, pour en venir sur le gaspillage, est-ce que l'État vous accompagne les restaurateurs pour lutter contre le gaspillage et la malnutrition ?
Alors, c'est une question qui est intéressante, mais c'est vrai qu'il nous accompagne pas assez à mon sens. Je dirais même, j'aurais pas peur de dire, même pas du tout. Pas du tout là-dessus, parce que l'État pourrait avoir le pouvoir de... Alors, je ne vous parle pas forcément sur des emballages de légumes, des choses comme ça, parce que nous, on reçoit en cagette, hein, des choses comme ça. Mais n'importe quel produit maintenant d'épicerie qu'on reçoit, Mais vous avez 4 emballages avant d'arriver au produit, quoi. Enfin, c'est de la folie. Les cartons, etc. Enfin, faut voir aussi. Hein. On reçoit des fois des... On reçoit des épices qu'on commande sur Internet, des épices françaises où on reçoit le carton, il fait 40 cm par 30, puis on a un pot d'épices qui en fait 5 à l'intérieur. Ben voilà. Donc ça me fout hors de moi, quoi. Ça me fout hors de moi parce que justement, bah nous, comme je disais tout à l'heure, on essaye au maximum de limiter le gaspillage, de faire le tri, etc. Puis d'un autre côté, à chaque fois qu'on reçoit en une semaine ce qu'on entasse comme carton, mais c'est incroyable. Voilà. Et encore, on est un restaurant qui, encore une fois, on fait 30 couverts service. Donc, je n'ose imaginer les établissements qui en font 10 fois plus. Voilà. Donc ouais, non, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Après, on n'attend pas un accompagnement. Souvent, quand on parle d'accompagnement, on pense à l'investissement, à l'argent proposé, des aides. Moi, je n'attends pas des aides pour limiter le gaspillage. Simplement, qui crie haut et fort à certaines grosses boîtes de limiter effectivement les emballages. Ouais, je pense. Ça, c'est nécessaire.
Au niveau des aliments bio, comme on en entend beaucoup parler, bon, moi, je suis très sceptique parce que quand on voit des produits bio qui sont emballés dans du plastique ou ceci, cela, ou je dis que ce n'est pas vrai. Quand on vous dit du lait bio, j'ai jamais vu une vache trier l'herbe avant de brouter, n'est-ce pas? Quel est votre avis au niveau de tous ces abus de mots bio, à part l'intérêt de vendre le produit plus cher par le fournisseur?
Alors là-dessus, nous, on a deux catégories de produits. Il y a la première catégorie, ça va être tout ce qui va être produit alimentaire. Et la deuxième, ça va être le vin. Je vais commencer par le produit alimentaire. Nous, effectivement, je ne suis pas forcément à la recherche de bio sur la viande, le poisson, les légumes, les fruits. Par contre, je vais être à la recherche, effectivement, de savoir qui l'a fait. Qui a élevé la viande, quel producteur a fait ses légumes, etc. Voilà, qui l'a fait et de quelle manière également. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter des légumes industriels là, tout normalisés, comme la viande aussi sous vide, etc. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains producteurs qui m'avaient expliqué déjà à l'époque effectivement que le bio, pour avoir l'agrément bio, ça demande un investissement déjà qui est pour eux déjà énorme. C'est pour ça que le bio est si cher après, parce qu'il y a un investissement qui est quand même assez colossal. Et puis ils ne l'ont pas du jour au lendemain non plus. Il y a à peu près 2 ans, 2 voire 3 ans pour avoir un dossier et une agriculture biologique. Après, effectivement, je vous rejoins là-dessus, il y a bio et bio. C'est-à-dire que moi, je suis content quand je trouve un produit de qualité, de saison et en plus qui est bio. Là, d'accord. 100%, je suis d'accord avec ça. Par contre, quand on voit des tomates d'Espagne ou du Chili sur nos étals en France qui sont bio, et comme vous dites, emballées par 2 dans des sachets plastiques, là non, là je ne suis pas d'accord. Voilà. Après, la deuxième catégorie, c'est les vins. Les vins, nous on en passe quand même suffisamment aussi au restaurant, qu'ils soient blancs, rouges, rosés. Et là par contre, nous on a fait le parti pris de prendre que du bio. 100% bio. 100% bio ou HVE. HVE, en fait, c'est une autre norme qu'on ne parle pas assez, c'est le haute valeur environnementale. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, le bio, lui, il va être sur du... ils vont contrôler, en fait, le fait qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il y ait de produits phytosanitaires, etc., durant toute la production. Par contre, après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe après. Voilà. Alors que le HVE, lui, il est contrôlé tout du long de la production. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est encore plus... plus poussé au niveau norme. Donc voilà, nous on fait que des bio ou HVE et on rencontre les producteurs, on va à la rencontre des producteurs de vin et on veut vraiment qu'ils... Vous voyez, on n'a pas de négociants en vin, on n'a pas des gens qui nous vendent du vin comme ça à l'étiquette. Nous on aime bien rencontrer les producteurs puis qu'ils nous racontent une histoire, qu'ils nous racontent pourquoi ils sont passés au bio, pourquoi ils font ça, quelles machines ils ont, enfin voilà, que nous on s'enrichisse de ce qu'ils font et puis pouvoir leur transmettre aux clients après.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue sur l'importance de consommer les produits de saison, s'il vous plaît ?
C'est primordial, primordial. Là-dessus, nous, on est... Alors là, c'est vraiment notre premier truc. En fait, nous, quand on crée une carte, en tout premier lieu, on regarde quels sont les produits de saison. Voilà, ça, c'est clair et net. On va voir nos producteurs, on va voir les magasins, etc. Et on regarde ce qu'il y a sur les étals de saison. Voilà. Là, je veux dire, là la fraise, ce ne sera pas avant le mois d'avril, quoi. Voilà, c'est clair et net. Même s'il y a un client qui nous dit je veux un dessert spécial, c'est mes 20 ans de mariage et je veux un dessert autour de la fraise, non, c'est niet. Voilà. C'est les produits de saison, grosso modo, moi j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment une aide que j'ai précieuse sur l'établissement de nouveaux plats et de nouvelles cartes. C'est ce qui va me dicter C'est ce qui va me dicter, c'est ce qui va me dire non, bah, tu peux pas faire ce plat parce que c'est pas de saison. Fais plutôt celui-là. Tiens, là, il y a ça en ce moment, les nouvelles, les choux de Bruxelles, il y a les panais, il y a les persils racines, il y a tout ce qui est racines, en l'occurrence, les racines de capucine, etc., là, qui sont là en ce moment. Bah voilà, là, il faut aller piocher ça maintenant. Voilà. Et puis ça rejoint un petit peu bah, justement le fait de non polluer par le fait que c'est des produits bah, qui sont autour de chez nous. Quoi. Voilà. On va pas aller chercher des. Certes, c'est la saison des fraises, mais c'est la saison des fraises en Australie en ce moment. Voilà, c'est l'hémisphère sud. On va pas aller. Chaque moment, chaque saison a ses produits. Et je trouve que c'est plutôt valorisant, justement, d'aller chercher les asperges au printemps, avec les morilles aussi, les fruits rouges un petit peu plus tard, en avril-mai. Et puis après, sur l'automne, d'avoir les champignons, etc. Enfin voilà, tout tourne autour de ça. Très important.
Alors, je vais me poser la question donc, à l'apprenti, parce que c'est important. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir rester dans ce même établissement plutôt que de chercher à aller voir pour perfectionner sur d'autres formes de cuisine que là, aux racines?
Ce qui m'a poussé à rester au restaurant Racine, c'est alors déjà c'est l'ambiance qu'il y a en cuisine, en salle, enfin avec tout le personnel. On est vraiment une petite famille, on s'entend tous très bien. Et ce qui m'a aussi ensuite poussé à rester, c'est qu'il y a eu le Covid lors de l'apprentissage. Et j'ai très clairement perdu à peu près un an sur les 2 ans de BP. Et donc pour moi, mon apprentissage n'est pas vraiment abouti, n'est pas terminé. Donc je me dois aussi de rester et d'apprendre encore beaucoup de choses. Et j'ai encore vraiment beaucoup de choses à apprendre de ce chef.
As-tu l'occasion de amener à ton chef une suggestion sur un plat, tiens, si on le faisait comme ça plutôt que comme ça, est-ce que c'était arrivé à le faire et comment l'a-t-il accepté?
Alors oui, j'ai réussi quand même à lui amener, je pense, peut-être quelques petites techniques ou idées un peu farfelues. Mais parce que c'est surtout qu'on écrit tous les deux en fait, les menus, on regarde les produits ensemble et on se dit, bon, ouais, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ça, on pourrait le faire avec ça, ça pourrait être sympa. Et si on y fait comme ça, ouais, mais non, là, on peut pas, parce que ça va nous prendre, par exemple, trop de temps, etc. Et, ou alors, ça ressemble trop à la carte d'avant ou de qu'on a fait déjà l'an dernier. Et donc, oui, après, oui, de toute façon, on partage les idées à peu près. On a à peu près le même point de vue sur les plats, donc voilà.
Alors, moi, c'est une question pour le chef. Quel souvenir gardez-vous de votre expérience à l'Élysée?
Bah, l'expérience à l'Élysée, c'est vrai que c'est qu'on rentre à plusieurs fois, à plusieurs reprises au palais. En plus pour faire à manger, hein, très clairement. J'étais chef exécutif à l'ambassade de France au Luxembourg, donc j'étais vraiment le chef de cuisine à l'ambassade de France au Luxembourg. Et j'étais appelé lors de dîners vraiment spéciaux, de dîners d'État notamment, où on reçoit 300 à 400 convives, un État qui visite donc la France. Et donc là, on est appelé vraiment en renfort pour la cuisine. Et là, c'est vraiment impressionnant, parce que là c'est, ça sort du... Ça sort même des visites qui peuvent être elles faites toute l'année au Palais de l'Élysée lors de des journées du patrimoine, des choses comme ça. Là, c'est vraiment tout le Palais de l'Élysée en ébullition. Donc, si vous voulez, on a vraiment l'impression de jouer un rôle dans cette journée-là. Quand moi j'arrivais la veille sur Paris, on vous avait déjà les Champs-Élysées avec les drapeaux du pays qui va être reçu au palais. Donc vous vous dites, wow, demain c'est mon tour. Le lendemain, vous rentrez l'Ouest, vous rentrez pas par la cour d'honneur évidemment, hein, on rentre par l'Ouest du palais. Et puis voilà, on prépare toute la journée et on sait effectivement que la moindre échalote qu'on coupe ou la carotte que l'on cuit, ça va être pour un chef d'État et puis toute la délégation qui va avec. Et évidemment, l'importance que ces repas ont, parce que c'est quand on voit la télé comme ça, c'est un peu une forme d'artifice. On a l'impression que c'est beaucoup d'argent qui sont entre guillemets un petit peu jetés par la fenêtre. Moi je le pensais comme ça aussi avant d'intégrer en fait les cuisines d'ambassade, etc. Et en fait mon patron, l'ambassadeur là à l'époque, m'a bien fait comprendre, et on le comprend très vite, que l'importance des repas d'État est primordial parce que entre guillemets les États vont avoir des fois entre eux à signer des contrats qui seront colossaux, des dizaines ou des centaines de milliards d'euros ou de dollars. Vous pouvez pas faire signer ça sur un bout de table avec un café, voyez. Donc on est obligé entre guillemets d'impressionner un petit peu. Impressionner, c'est comme si vous receviez en fait des amis chez vous, puis vous avez envie de leur montrer, waouh, vous avez vu le beau bouquet de fleurs, la belle verrerie, le machin. C'est un peu pareil. En gros, on veut montrer ce que l'on sait faire, et en l'occurrence la gastronomie française est vraiment reconnue mondialement. Donc, c'est vrai que tous les chefs d'État qui passent au, alors soit dans les ambassades, soit au palais de l'Élysée, s'attendent à une gastronomie haut de gamme. Pas pour autant avec des produits de luxe. Ça, c'est fini aussi. Hein, la gauche caviar, là, telle qu'on l'entendait dans les années 80, à servir du caviar, etc., c'est terminé. Maintenant, on a des budgets qui sont vraiment restreints. Il faut s'imaginer, alors, pas pour un dîner d'État, mais parce que je ne savais pas, très clairement, je ne sais pas les budgets, mais en tout cas, moi, en l'occurrence, pour un dîner officiel à l'ambassade de France, donc officiel, ça veut dire quand même avec des chefs d'État, avec l'ambassadeur, etc., je dépassais pas 25 € par personne de produits. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, quand vous faites le prorata des choses, l'ambassadeur va inviter, je ne sais pas moi, 10 personnes pour signer un contrat avec ArcelorMittal, qui va, par exemple, générer des contrats derrière de plusieurs centaines de millions d'euros. Je veux dire, ça coûte 250 € aux contribuables. Je crois qu'on est bien, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, il y a l'importance. Et puis, il y a aussi, bon, bah, là, on montre également tout le patrimoine de la... c'est les bâtiments, évidemment. L'ambassade, le palais de l'Élysée, c'est un bâtiment en tant que tel. Donc, c'est très beau, c'est majestueux, etc. Mais c'est aussi un patrimoine français. Et là, pour revenir sur votre question, vraiment, le plus profond souvenir que j'ai du palais de l'Élysée, c'est le côté passionné de tous les employés qui sont là-bas. Je ne vous parle pas de la partie politique, moi je suis apolitique complet. Voilà, quand on travaille là-dedans, je pense qu'il faut être apolitique de toute façon. Mais tout ce qui gravite autour, que ça va des chauffeurs, des gardes du corps, du GSPR, du groupe de sécurité du président de la République, du RAID, des fleuristes, des argentiers, tous ces gens-là qui gravitent autour du chef d'État pour recevoir au mieux les invités, mais je les trouvais incroyables. J'en faisais partie, mais je veux dire, quand vous voyez encore les autres en faire encore plus, vous vous dites waouh, c'est impressionnant, vraiment.
Alors, une question pour Alexis. On vient de parler de restauration de luxe. Que pensez-vous de la restauration collective comme Sodexo ou autre ?
C'est une super question qui est d'ailleurs souvent posée pour les cuisiniers qui travaillent dans le restaurant traditionnel, gastronomique, etc. Et moi, j'ai absolument rien contre la restauration de collectivité. Bien au contraire, je les applaudis parce que n'empêche, se lever à 6 h le matin et préparer pour 500 ou 600 enfants ou adultes selon les collectivités, bah bravo, parce que c'est quand même un sacré boulot. On a eu la chance de faire un mini-stage un petit peu aussi de 2 jours à l'école primaire de Feillan, école maternelle. Et on a dû servir 450 enfants et on a mis 1 jour et demi quand même de préparation. Donc c'était pas rien de voir ce monde-là, et c'est vrai qu'on a pu découvrir de nouvelles machines, des fourneaux à 24 étages, x2, on se demandait même s'il n'y avait pas trop de place, et au final non, il fallait faire 2 tournées par exemple. On a découvert vraiment des sauteuses énormes qui font je ne sais pas combien de litres, et vraiment c'était un autre matériel, un autre monde, un autre univers, et moi je les applaudis vraiment.
Alors avec Marcel De Geurs, qui était donc un des grands Lyonnais qui s'occupait beaucoup des collectivités scolaires, nous avions mis au point une époque, donc je vous parle des années 60, où on présentait aux enfants un plat d'épinards, une assiette d'épinards dans une assiette blanche, ils la refusaient. Vous lui mettiez une assiette de couleur avec une petite rondelle de tomate, un petit brin de persil, un petit ci, un petit là, un petit quart d'œuf, ils le mangeaient. La présentation est très importante dans ces métiers-là, et vous, je pense qu'au niveau de votre établissement, vous avez énormément à cœur de la présentation. Qu'en pensez-vous ?
Absolument, la présentation, c'est de façon le premier contact. C'est le premier contact avec la clientèle. Nous, comme je disais tout à l'heure, on est des artisans, on travaille un peu dans l'ombre, dans la cuisine, et puis après, bim, l'assiette part au niveau du service, et on se dit quelle va être la première réaction du client. Voilà. Donc effectivement, on a quelques dressages qui sont un peu osés, justement, où on travaille avec des nouvelles techniques d'assiette, des nouveaux de la fumée, etc. Enfin, voilà. Et c'est vrai que le premier contact visuel est très important. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand... alors bon, évidemment, quand les adultes sont contents, etc. Mais il y a aussi, ce que j'aime bien, c'est quand les parents donc, prennent un plat pour leur enfant. Voilà. Alors, on n'a pas vraiment de formule, nous, au restaurant, on n'a pas de formule enfant à proprement parler. On n'a pas des plats spécialement pour les enfants. En fait, on va avoir les plats des adultes, mais portionnés pour les enfants. Voilà. Et ça, on l'explique, en fait, pour se dire, bah, encore une fois, l'éducation du goût, elle commence par là. C'est sûr que mon fils en premier, si on lui dit tu préfères un steak frites ou une purée de panais avec un écrasé de cabillaud, bon, bah, c'est sûr qu'il va prendre le steak frites comme ça, proprement dit. Mais si on ne lui laisse pas le choix, il va prendre finalement la purée de panais avec l'écrasé de cabillaud. Et puis bah, présenté comme ça, il va se dire « Ah tiens, c'est intéressant ». Hop, puis il va le manger. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand les parents finalement en fin de service disent « Vous êtes arrivé à faire manger du panais et du cabillaud à mon fils ». Voilà. Et effectivement, ça rejoint exactement ce que vous dites, où la présentation est très importante. Voilà. C'est vrai qu'on a parlé donc de la restauration, etc. On vit là en ce moment la crise Covid avec tout ce que ça importe au niveau recrutement, etc. Et c'est vrai qu'on a, nous, souvent, quand je dis nous, c'est la restauration en règle générale, on a eu, nous, ça fait, on n'a pas attendu la crise Covid en fait pour être en galère de personnel. Hein, on a eu déjà des années de déboires pour trouver du personnel. Et je me bats en fait, parce que je suis peut-être aussi la nouvelle génération, je me bats à essayer un petit peu de casser cette fausse idée qu'on a de la restauration, qui était certainement vraie il y a encore 10, 15, 20 ans en arrière, à savoir les 70 heures par semaine, les heures sup non payées, un jour et demi de congé par semaine, et puis souvent la demi-journée elle sautait, travailler le week-end, travailler les soirs jusqu'à point d'heure, travailler dans des conditions aussi de chaleur, d'humidité, etc. Enfin voilà. Ça, disons qu'il faut aussi le casser. Ça existe encore certainement dans certains établissements, peut-être, mais ça, je ne le cache pas. Par contre, le métier a quand même relativement bien évolué. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu, pourtant je ne suis pas vieux, mais ce que j'ai vécu il y a 15 ans en faisant des saisons, comme je citais là à l'instant, les 70 heures par semaine, le fait de ne pas être payé aux heures sup et compagnie, j'avais même calculé une fois, j'avais fait 110 heures par semaine sur une saison en Corse. Et j'étais payé... Mais si vous voulez, en fait, ça, je ne veux certainement pas le faire vivre à mes employés. Ça, c'est clair et net. Et je pense que la génération dont je fais partie, les collègues restaurateurs qui sont un peu dans la même tranche d'âge que moi, ils sont un petit peu sur le même truc. C'est-à-dire qu'on veut profondément changer la manière de faire. Alors certes, on continuera à travailler le week-end, on continuera à travailler le soir. Parce que pourquoi ? Parce que nos clients ont envie de sortir le week-end, ont envie de sortir le soir. Voilà, et il faut qu'on soit là en face. Mais par contre, on a une autre vie à côté. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, vous voyez, le restaurant Racine, on est ouvert du vendredi au lundi. Le mardi, mercredi, jeudi, théoriquement, on est en congé. Alors, je dis théoriquement parce qu'évidemment, si on a un gros groupe qui nous demande pour travailler, etc., on sera là. Mais je veux dire, nos salariés, ils travaillent 3 jours et demi, ils sont en congé 3 jours et demi. Voilà. Alors certes, ils font leurs heures, hein, ils font leurs 39 heures, etc. Il n'y a pas de souci, ils les font. Mais je veux dire, il y a une ambiance, comme disait Alexis tout à l'heure, une ambiance de travail maintenant qui a changé, qui est plus familiale, qui est un peu plus jeune. On a également les conditions de travail qui sont comme ça. Et puis, quel plaisir aussi de se dire, un cuisinier, par exemple... on produit quelque chose, on est des artisans. Moi je suis très admiratif toujours des métiers de l'artisanat. Un mec qui pose du carrelage, je me dis putain, il a super bien posé son truc. Voilà, on a trop dénigré ces métiers manuels pendant très longtemps. On le dit à la télé, mais on le dit pas assez fort. On a trop dénigré ces métiers et pour les jeunes, effectivement, maintenant apprendre un métier manuel et finalement qu'au in fine il y a un résultat visible. C'est vachement important. C'est super important. Nous, on est super contents quand finalement on s'est tapé une journée de mise en place. Alors certes, avec des moments à éplucher des carottes, des pommes de terre, c'est pas le kiff. Hein, mais finalement, à la fin de la journée, quand on envoie nos premières assiettes, on se dit waouh, on a réussi à faire ça. On a réussi à sortir ça. Donc ça, c'est très important. Et puis il y a aussi le métier, on a plusieurs métiers dans notre métier. On a le métier de serveur également. Et les métiers de serveur, c'est pareil. La restauration peine à recruter des serveurs. Alors qu'encore une fois, certes, il y a serveur et serveur. Hein, il y a restaurant et restaurant, encore une fois. Mais dans la partie gastronomique ou traditionnelle, on va dire, de la restauration, le serveur, c'est top, quoi. C'est un vendeur, c'est un commercial. En gros, il va venir vendre le vin, comme je vous expliquais tout à l'heure sur le vin de Patrick Chêne. Il va aller raconter une histoire. Il va aller raconter ce qui se passe dans l'assiette. Il va aller raconter les textures que vous allez avoir à la première mise en bouche. Et puis en plus, il va être bien sapé. Il va avoir le costume, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément une promo que je fais au métier de la restauration. Mais je veux dire, quand je vois comment on a tapé sur ce métier-là pendant très longtemps, et je pense que c'était nécessaire de le faire parce qu'à un moment donné, c'était un peu du grand n'importe quoi. Mais là, je pense que là, maintenant, effectivement, il faut revenir. Il faut revenir à ce métier-là parce que croyez-moi que regardez Alexis, mon sous-chef, il est venu dans le restaurant il y a 2 ans en arrière. Si vraiment les conditions étaient si mauvaises que ça, il en serait reparti. Voilà. Et puis, il est peut-être avec nous pendant un petit moment encore. Voilà. Donc bon, c'est important. C'est important, je pense, pour la jeunesse de revenir dans la partie et puis de découvrir ce métier qui est de mille facettes. De mille facettes. Moi, j'ai fait le tour du monde avec mon métier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre métier avec ce niveau de diplôme-là. Attention, moi, j'ai que le niveau bac. Hein. Avec ce niveau de diplôme-là qui permettent de travailler pour trois présidents de la République, qui permettent de voyager à travers le monde comme je l'ai fait, et qui permettent de s'épanouir dans quelque chose de manuel. Voilà, pensez-y les jeunes. Donnez-moi un peu d'air.
Et j'ai fermé la fenêtre. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont. Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Je vais faire un point sur la pollution engendrée par la multinationale Coca-Cola. Et oui, selon l'ONG Break Free From Plastic, qui est une association qui récolte les déchets aux quatre coins du monde, Coca-Cola est champion du monde de la pollution depuis 3 ans déjà. Un article paru dans 20 minutes nous dévoile qu'environ 20 000 bouteilles ont été retrouvées en 2021 dans 39 pays différents. Le bilan est désastreux. Chaque année, le nombre de déchets retrouvés par l'association Break Free From Plastic augmente. Alors dans le journal Le Monde, on y trouve les chiffres du nombre de ces déchets retrouvés les 3 dernières années. Environ 11 000 en 2019, environ 13 000 en 2020 et 20 000 environ en 2021. Donc on peut voir qu'en 3 ans, le nombre de déchets trouvés a presque doublé. Pourtant, comme le dit Coca-Cola, je cite, « La protection de l'environnement est une priorité majeure ». Ils promettent également la collecte des emballages d'ici 2025. Cependant, le résultat n'est pas là. Emma Pritzland, qui travaille pour l'ONG, dénonce le fait que Coca-Cola investisse dans de fausses solutions, tout en s'associant à des compagnies pétrolières pour produire plus de plastique. Arrêtons donc de jeter dans la nature. Le tri est mis en place dans toute la France. Cela évitera de trouver des bouteilles vides aux quatre coins du monde. Et espérons que Coca mette vite en place ses promesses concernant la protection de l'environnement.
Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins. Ok. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose je crois bien. Ok. Droit dans le mur, on continue de foncer. Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous. Ok. D'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer. Ok. J'enfile un casque VR pour prendre l'air. Ok. On fonce dans le fossé, à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans.
Les voitures électriques. Arrêtons de regarder que le CO2 produit par les véhicules thermiques. Pour ce qui est des voitures électriques, oui. Mais qui fabrique ces batteries? Est-ce que l'on pense à revoir les métaux que nous employons pour ces batteries? Extraits en Chine et au Congo particulièrement. Ces métaux lourds et dangereux, extraits par des enfants de moins de 15 ans, que l'on traite comme des esclaves, et qui subissent de maltraitance. Êtes-vous d'accord pour participer à cet esclavage infantile? Pourquoi pas plutôt basculer vers l'hybride, qui, je pense, aurait moins d'impact mondial?
« Merci à tous d'être toujours aussi fidèles sur notre Radio B. Pour conclure, ne culpabilisez pas trop sur le réchauffement climatique. Continuez ou commencez à votre échelle à préserver notre planète. Nos efforts individuels deviendront collectifs.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts, I know.